de Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Bonsoir et bienvenue à tous. Comment allez-vous? Je suis très ravi de vous retrouver dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Vous êtes avec moi, Audrey. Nous allons vous présenter un certain nombre de programmes comme le journal, le commentaire et d'autres infos, comme l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, le magazine culturel, apprendre l'indonésien et des chansons indonésiennes. Mon cher auditeur, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous, Voice of Indonesia, de l'Indonésie au monde, sur les fréquences de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
RRI, la voix de l'Indonésie, avec le journal.
Chers auditeurs, bonsoir. Voici le journal. Nous commençons avec les titres. Le ministère des Affaires étrangères convoque le représentant de l'ONU pour expliquer le nouveau code pénal. La République d'Indonésie et la Corée du Sud ont signé une coopération sur le développement des ressources humaines indonésiennes. La BAD accepte que l'Indonésie emprunte 138,52 millions de dollars américains pour développer un domaine scientifique. L'Indonésie promeut les opportunités de développement de la médecine traditionnelle lors du forum ASEAN-Chine. Le ministère du Tourisme et de l'économie créative soutient pleinement Bantul pour devenir une ville créative mondiale selon l'UCCN. Sandy a assisté au plus grand festival végétalien du monde à Surabaya. Voici le journal complet. Le ministère des Affaires étrangères de la République d'Indonésie a convoqué lundi 12 décembre le représentant de l'ONU en Indonésie pour lui expliquer le code pénal KUHP qui venait d'être ratifié par la Chambre des représentants indonésienne. Le porte-parole du ministère indonésien des Affaires étrangères, Tengku Faizasa, a déclaré que la convocation avait été faite en même temps pour répondre aux préoccupations de l'ONU concernant l'Indonésie sur la ratification du code pénal considéré comme incompatible avec la liberté fondamentale et les droits de l'homme. Cette préoccupation a été transmise par l'ONU sur le site officiel de l'ONU pour l'Indonésie jeudi dernier, 8 décembre. Le gouvernement indonésien, selon Tengku Faizasa, a regretté l'attitude de l'ONU en soumettant des plaintes au gouvernement indonésien par les médias avant de recevoir une confirmation directe du gouvernement.
Mengapa kami memanggil? Karena ini juga merupakan salah satu tata hubungan dalam berdiplomasi.
Pourquoi appelons-nous? Car c'est aussi l'une des relations de la diplomatie. Il est bon que l'étiquette en vigueur soit que lors de l'interaction avec des représentants étrangers ou de l'ONU dans un pays, il y a toujours des lignes de communication pour discuter de diverses questions. N'utilisons donc pas les médias de masse comme un outil pour transmettre quelque chose qui n'a pas été vérifié. Précisément, la raison pour laquelle nous avons invité le vice-ministre des droits de l'homme à cette réunion était de fournir des explications sur diverses questions, qui ont été soulevées dans les médias et qui n'ont pas encore reçu de réponse. Ainsi, il est très bon que les représentants étrangers, y compris les Nations Unies, ne se précipite pas pour émettre des avis ou des déclarations avant d'avoir obtenu des informations plus claires. Apa kabar? Dans zone communiqué de presse officiel publié sur le site web de l'ONU en Indonésie, il est indiqué que l'ONU se félicite de la modernisation et de la mise à jour du cadre juridique indonésien, mais noté avec l'inquiétude à l'adoption de certaines dispositions dans le code pénal révisé. Selon la mission officielle, un certain nombre de dispositions du nouveau code pénal indonésien sont incompatibles avec les libertés et les droits de l'homme, y compris le droit à l'égalité. En outre, les Nations Unies craignent également que plusieurs articles du code pénal révisé entrent en conflit avec les obligations juridiques internationales de l'Indonésie en matière de droits de l'homme, y compris la criminalisation des travaux journalistiques et la violation de la liberté de la presse. Afin que les produits juridiques indonésiens n'entrent pas en conflit avec les droits de l'homme, l'ONU propose une solution, à savoir que l'Indonésie doit être plus ouverte au dialogue avec la société civile dans l'élaboration des lois et l'ONU se déclare prête à partager son expertise technique et à aider l'Indonésie à renforcer le cadre législatif et institutionnel. L'Indonésie et la Corée du Sud ont signé une coopération pour le développement des ressources humaines indonésiennes, menée par le ministère de l'Industrie. Le Collège d'Ulsan en Corée du Sud et la Chambre de commerce et d'industrie coréenne COCHAM en Indonésie. Cette coopération est contenue dans un protocole d'accord sur la coopération dans le développement des ressources humaines industrielles et la mise en œuvre du modèle de parc éco-industriel EIP sud-coréen en Indonésie. Le chef de l'Agence de développement des ressources humaines industrielles du ministère de l'Industrie, Arus Gunawan, dans sa déclaration à Jakarta lundi, a déclaré que dans le protocole d'accord, on avait convenu entre autres une collaboration en matière de formation entre le Collège d'Ulsan et COCHAM avec le Centre de formation de l'industrie du ministère de l'Industrie, EPD 4.0. En outre, il existe une collaboration éducative entre le Collège d'Ulsan et l'École polytechnique du ministère de l'Industrie, des certificats de compétences, des programmes de formation pour les fonctionnaires du ministère de l'Industrie, ASN, des programmes académiques spéciaux à court terme ou des programmes culturels pour des recherches et des publications communes. La Banque asiatique de développement, BAD, accepte que l'Indonésie emprunte 138,52 millions de dollars américains pour soutenir la stratégie du gouvernement indonésien en matière de commercialisation de la recherche et l'innovation, ainsi que pour accroître le succès des start-up dans les quatre régions scientifiques et technologiques d'Indonésie. Le projet de renforcement de la recherche et de l'innovation à travers le domaine scientifique et technologique moderne et efficace soutiendra les domaines scientifiques et technologiques dans un certain nombre d'établissements d'enseignement supérieur public bien connus, à savoir l'Institut de technologie de Bandung, ITB, l'Université de Gadjah Mada, UGM, l'Institut agricole de Bogor, IPB, et l'Université d'Indonésie, UI. Le spécialiste principal du secteur social de la BAD pour l'Asie du Sud-Est, Fuk Yen Chon, a déclaré lundi dans un communiqué officiel à Jakarta que la maîtrise limitée de la technologie dans l'industrie et le manque de capacité à absorber les nouvelles technologies peuvent réduire la productivité et entraver la croissance économique. Selon Fuk Yen Chon, grâce à ce projet, diverses industries indonésiennes qui coopèrent avec les domaines scientifiques et technologiques des quatre universités acquériront les connaissances nécessaires pour mieux utiliser les ressources, créer de nouveaux produits et pénétrer de nouveaux marchés. Le gouvernement indonésien a promu les opportunités de développement de l'industrie de la médecine traditionnelle lors du 7e forum Chine-ASEAN sur la médecine traditionnelle qui s'est tenu lundi à Fangchenggang dans la région autonome Zhuang de Guangxi en Chine. Le forum organisé par le secrétariat du forum Chine-ASEAN sur la médecine traditionnelle est connu comme un moyen de promouvoir le développement de la médecine traditionnelle en Chine et dans les pays de l'ASEAN. La Zhuang à la coordination de la gestion environnementale et forestière du ministère de Coordination des Affaires maritimes et de l'Investissement, Nani Hendiyakti, a révélé lundi dans un communiqué à Jakarta le potentiel de l'Indonésie qui possède une riche biodiversité en tant que source de médecine traditionnelle et de son industrie. On dit que l'Indonésie compte 30 000 espèces, dont 9 600 peuvent être utilisées comme médicaments, 3000 comme composants à base de plantes et 200 espèces sont utilisées comme matière première pour l'industrie de la médecine traditionnelle. Le ministre du Tourisme et de l'Économie créative, Sandiaga Uno, soutient pleinement les efforts du gouvernement de la région de Bantul pour se préparer à faire partir du réseau mondial des villes créatives de la version du réseau des villes créatives de l'UNESCO, ou CCN. Sandiaga Uno, lors du dialogue du Forum de l'investissement de Bantul à Jakarta, lundi, a déclaré que dans le processus de faire partir du réseau mondial des villes créatives de la version UCCN, plusieurs activités supplémentaires doivent être remplies, dont l'une est la tenue d'activités sur le thème de l'économie créative. On dit que le gouvernement de la région de Bantul, la région spéciale de Yogyakarta, a actuellement préparé un certain nombre d'activités telles que le séminaire national créatif de Bantul, l'exposition créative de Bantul et la semaine de la mode de Parangkusumo. En outre, Sandiaga Uno apprécie également les efforts du gouvernement de la résidence de Bantul pour renforcer et développer constamment les écosystèmes du tourisme et de l'économie créative afin que Bantul soit inclus dans les rangs des districts créatifs indonésiens 2022. Le ministre du Tourisme et de l'Économie créative, Sandiaga Uno, a assisté au festival végétalien 2022 à Surabaya dans l'Est de Java, qui est le plus grand festival végétalien au monde. Le festival végétalien 2022 avec le thème Wonderland Indonesia est un événement d'envergure internationale qui vise à socialiser le mode de vie végétalien ou ne pas manger de viande, de poisson, de produits laitiers ou d'œufs parmi le public. Sandiaga Uno, lors de sa participation au festival végétalien 2022, cité dans un communiqué officiel à Jakarta, lundi, a pu battre de grands pays tels que l'Amérique et l'Australie, que l'Indonésie organise le plus grand festival végétalien en termes de superficie et de nombre de locataires et de PME. Cela montre que la nation indonésienne a pris le leadership, en particulier dans le segment culinaire végétalien. L'activité qui s'est déroulée du 8 au 11 décembre 2022 est devenue un mouvement écologique pour réduire l'effet de serre et le changement climatique mondial. Ses auditeurs, c'était le journal de la Voix d'Indonésie à Jakarta.
Thank you.
16 heures, après le journal, maintenant nous vous présentons le commentaire et pour le titre, le code pénal, point de départ de la réforme de l'administration pénale en Indonésie. L'Indonésie a enfin son propre code pénal, KUHP. Le Parlement indonésien, ou DPR RI, a adopté le projet de code pénal RUU KUHP dans la loi mardi 6 décembre 2022. Auparavant, le code pénal en vigueur en Indonésie était un produit néerlandais en vigueur depuis 1918. Citant le site officiel de l'Agence nationale de développement juridique, le ministère de la Loi et des droits de l'homme, Yasona H. Lawli, a déclaré que cette ratification était un moment historique dans l'administration du droit pénal en Indonésie. Après des années d'utilisation du code pénal hollandais, l'Indonésie a maintenant son propre code pénal. La ratification du projet de loi sur le code criminel a pris beaucoup de temps, comme l'a révélé le ministre Yasona Lawli. L'Indonésie élabore des réformes du droit pénal depuis 1963. Avant et après la ratification, les pour et les contre envers le code criminel qui vient d'être ratifié ont émergé. Non seulement à l'intérieur du pays, plusieurs partis étrangers ont également émis leurs opinions. L'un d'eux est le représentant de l'ONU en Indonésie. Dans un communiqué de presse publié sur le site officiel du représentant de l'ONU en Indonésie, l'ONU s'est dite préoccupée par un certain nombre d'articles susceptibles de violer les libertés et les droits de l'homme. Quelques nouvelles choses n'est pas nécessairement en mesure de satisfaire toutes les parties. De même avec le code criminel, le ministre Yasona Lawli a appelé ceux qui sont en désaccord ou qui protestent contre le nouveau code pénal à le transmettre par le biais du mécanisme approprié. Le public est autorisé à déposer une plainte devant la Cour constitutionnelle ou MK. De même avec des partis étrangers, comme les représentants de l'ONU, par exemple, le ministère des Affaires étrangères a convoqué le représentant de l'ONU lundi, le 12 décembre. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Tengku Faizal Shah, lors d'une conférence de presse, a déclaré lundi que l'étiquette qui s'applique et l'interaction de représentants étrangers ou de l'ONU dans un pays par le biais de canaux de communication pour discuter de diverses questions sans utiliser les médias de masse comme outil pour transmettre quelque chose qui n'est pas encore vérifié. Il a ajouté qu'il convient que les représentants étrangers, y compris les Nations Unies, ne se précipitent pas pour émettre des avis avant d'avoir obtenu des informations plus claires. La loi sur le code de procédure pénale vient d'entrer en vigueur en 2025. Il reste suffisamment de temps pour socialiser la loi sur le code pénal, qui est considérée comme le point de départ de la réforme de l'administration pénale en Indonésie. Sa mise en œuvre relève bien entendu la responsabilité conjointe du peuple indonésien. Non seulement peut-il être compris par le peuple indonésien, mais aussi par les étrangers. Ainsi, les craintes d'impact indésirable de la mise en œuvre de la loi sur le code pénal peuvent s'évanouir. Chers auditeurs, c'était le commentaire pour ce soir. Chers auditeurs, bonsoir. Le temps maintenant pour nous de vous présenter l'histoire d'aujourd'hui. Nous commençons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement du 13 décembre 1937, la fondation de l'agence de presse Antara. L'agence de presse Antara est l'entreprise d'État désignée par le gouvernement pour couvrir et diffuser des informations rapides, précises et importantes dans toute l'Indonésie et à l'étranger. Antara a été fondée le 13 décembre 1937 par A.M. Sipahutar, M. Sumanang, Adam Malik et Pandu Kartawiguna. En 1962, Antara devient officiellement l'agence nationale de presse. Passons maintenant à l'événement du 13 décembre, le jour de l'archipel. L'histoire de la journée de Nusantara commence avec la naissance de la déclaration de Juanda le 13 décembre 1957, qui a été initiée par le premier ministre indonésien de l'époque, Juanda Kartawijaya. La déclaration de Juanda a déclaré au monde que les maires indonésiens Je voulais que les mères indonésiennes comprennent les mères autour, entrées à l'intérieur de l'archipel indonésien, formant un territoire unifié de la République d'Indonésie et non une zone libre. La déclaration a été acceptée en 1982 et stipulée dans la 3e Convention des Nations Unies sur le droit de la mer en 1982 ou UNCLOS 1982. En outre, cette déclaration a été réaffirmée par la loi numéro 17 de 1945 concernant la ratification de la CNUDM 1982, selon laquelle l'Indonésie est un état archipel. En 1999, le président Abdurrahman Wahid a déclaré le 13 décembre la journée de l'archipel. Nous finissons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement du 13 décembre 2003, le dirigeant irakien Saddam Hussein est arrêté. Saddam Hussein a été président de l'Irak du 16 juillet 1979 au 9 avril 2003. Pendant son règne, Saddam Hussein a entraîné l'Irak dans la guerre contre l'Iran et le Koweït, connue sous le nom de guerre du Golfe 1 et 2. La deuxième guerre du Golfe contre le Koweït a provoqué l'ostracisme de l'Irak par la communauté internationale. Saddam Hussein a été renversé lors de l'invasion de l'Irak menée par les États-Unis en 2003 et a été capturé lorsqu'il se cachait le 13 décembre 2003. Le 5 novembre 2006, il a été condamné à mort par pendaison. L'exécution a eu lieu le 30 décembre 2006. Chers auditeurs, c'était l'histoire d'aujourd'hui pour ce soir.
Bahagia di sisimu, aku merasa hidupku pun semakin sempurna. Coba kau dengarkan, inilah janjiku, takkan pernah ku lepas dirimu selamanya. Oh, baby 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 baby, I want you to know.
Chers amis, c'était la première chanson pop indonésienne pour ce soir. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie, de l'Indonésie au monde. Et voici donc le programme Mon Indonésie. Bonne écoute. Bonsoir à toutes et à tous, maintenant c'est le temps pour l'émission de Mon Indonésie, intitulée « Indonésie encourage le renforcement de la coopération en matière de commerce et d'investissement avec le Pacifique ». Vous êtes avec moi, Audrey. Chargé d'État, le ministère indonésien des Affaires étrangères, en collaboration avec la Chambre de commerce indonésienne, Kadin, a organisé un Pacific Business Engagement, PBE, dans le cadre d'une série de forums Indonésie-Pacifique pour le développement, IPFD, 8 décembre, à Bali, en Indonésie. L'activité à laquelle ont participé environ 90 personnes du secteur privé hors ligne et en ligne vise à promouvoir l'interaction commerciale entre les entrepreneurs et les associations professionnelles en Indonésie, en Papouasie, Nouvelle-Guinée et au Timor-Leste. Comme cité sur la page kemlu.go.id, 9 décembre, dans son allocution d'ouverture, le directeur général pour l'Asie Pacifique et l'Afrique du ministère indonésien des Affaires étrangères, l'ambassadeur Abdul Ghani Jailani, a déclaré qu'il y a trois approches importantes pour renforcer les relations entre l'Indonésie et le Pacifique. Premièrement, encourager la coopération entre l'Asie et le Pacifique dans le cadre des perspectives de l'ASEAN pour l'Indo-Pacifique. Il a expliqué qu'il existe plusieurs domaines de coopération qui peuvent continuer à être développés, tels que la coopération maritime, les affaires, la connectivité, les objectifs de développement durable et la coopération économique. Abdulkadir Jailani a expliqué que la deuxième approche consiste à accroître les interactions commerciales dans le contexte de la reprise économique. Troisièmement, exprimer conjointement les intérêts du Pacifique auprès de la communauté internationale. Le président de la Chambre de commerce et d'industrie indonésienne, Kadin Arshad Rashid, a déclaré dans son allocution que le Timor oriental, Timor-Leste, la Papouasie, Nouvelle-Guinée et l'Indonésie étaient en mesure d'interagir les uns avec les autres. Les trois pays ont le même programme pour faire progresser l'économie des pays du Sud et du monde en développement. Selon Arshad Rashid, il est temps que l'Indonésie et les pays du Pacifique travaillent ensemble pour développer l'industrie navale. Il a souligné l'importance de la transition énergétique pour atténuer l'impact du changement climatique et créer de nouveaux emplois en Indonésie. Selon Arshad Rashid, le Pacifique doit formuler un plan étroit et convenu d'un commun accord pour faire avancer les objectifs de l'agenda du Pacifique. Dans son allocution, le président de Kadin, Arshad Rashid, a déclaré que Kadin s'engage à faciliter la coopération entre les hommes d'affaires et assurer une coopération bénéfique pour toutes les parties concernées. De son côté, le ministre des Affaires étrangères de Papouasie-Nouvelle-Guinée, Justin Tkachenko, s'est félicité de l'arrivée d'investisseurs dans son pays et apprécié les diverses leçons pour pourraient être tirées de l'expérience de développement économique de l'Indonésie. Pendant ce temps, le ministre des Affaires étrangères du Timor-Leste, Adalicha Manyo, a vu un bon potentiel de la présence des institutions bancaires indonésiennes pour faciliter les affaires des entrepreneurs indonésiens avec le Timor oriental. Bon, chers auditeurs, c'est tout, Mon Indonésie. De Jakarta, voici la voix de l'Indonésie, la diffusion en français.
Ku pandang langit.
Chers auditeurs, c'était la deuxième chanson pop indonésienne. J'espère bien que vous aimez la chanson. Alors, vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Chers auditeurs, maintenant, nous allons présenter le magazine culturel. Bonne écoute.
Merci d'être fidèle à notre antenne, la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, voici la rubrique magazine culturel. Et cette fois, nous allons vous présenter le lendot, est une cuisine typique des îles de Riau. Chaque région en Indonésie a une variété de plats délicieux, comme par exemple les îles de Riau. Dans cette région, vous pouvez déguster une variété d'aliments typiques, entre autres le lendot. Le lendot est un aliment malais typique de Tanjung Balai Karimun. Ce plat est fabriqué à partir de sagu avec un mélange de soupe frisée ou d'épinards auquel on ajoute généralement des crevettes ou des escargots et un mélange d'épices. Le lendot a une texture visqueuse comme de la colle car il utilise de la farine de sagu. Le lendot a un goût si délicieux, puré de poisson mélangé avec du sagu et du piment. Les épices utilisées peuvent garder le corps au chaud et sont considérées comme capables d'augmenter la résistance du corps pour les malais côtiers. Il est préférable de manger ce plat lorsqu'il est encore chaud, parce que la sauce aux limes fondra lorsqu'elle refroidit. Le lendot est toujours présent pendant le Ramadan. Sa texture douce rend ce plat idéal pour être consommé comme menu pour rompre le jeûne. Ce plat n'est pas largement vendu, mais il y a quelques restaurants qui vendent du lendot à Tanjung Balai Karimun. Le lendot est vendu à un prix très abordable, qui n'est que 5000 rupiah par portion. Chers amis, c'était le magazine culturel de la voix de l'Indonésie à Jakarta, intitulé Le Lendot est une cuisine typique des îles de Riau. Merci à tous et à bientôt.
Jelas miliki sesuatu, namun entah hati masih meragu. Tiap tak bersamamu tak kurasakan rindu. Mungkinkah kau benar untukku? Tak tahu apakah ku cinta atau ku hanya senang karena kau ada. Yang ku takutkan darah ini bukan asmara. Mungkinkah kau benar untukku? Bilakah memang benar engkau orangnya? Lalu mengapa hati masih bertanya? Mungkinkah kau terbenar untukku? Jujur ku masih tak menahu
Apakah kau memang tercipta untukku? Bila hari-hariku masih indah tanpamu, mungkinkah kau benar untukku? Bila kau memang benar engkau orangnya, oh lalu mengapa hati masih bertanya? Mungkinkah kau terbenar untukku? Kau tak harus menunggu, semua tanyaku berlalu. Kini ku pun meragu, mungkinkah ku terbenar untukku? Bila kau
Ritard, c'était la troisième chanson pop indonésienne. Qu'est-ce que vous en pensez? C'était une belle chanson? Alors, vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde. Pour la rubrique suivante, voici donc Apprendre l'indonésien. Bonne écoute. Chers auditeurs, bonsoir. On se retrouve dans l'émission Apprendre l'indonésien, une rubrique qui vous présente des vocabulaires indonésiens et vous guide pour parler indonésien. Cette émission est une collaboration entre Voice of Indonesia, la station de radiodiffusion à l'étranger de Radio République Indonésia, avec l'Agence nationale pour le développement et le renforcement de la langue, de la recherche et de la technologie du ministère indonésien de l'éducation et de la culture. Vous êtes avec moi, Audrey. Le sujet d'aujourd'hui est Buka dari pagi sampai sore. Buka dari pagi sampai sore. Il est ouvert du matin au soir. Bonne écoute. Chers amis, ensuite je vais vous donner un exemple de conversation en indonésien. Buka dari pagi sampai sore. Buka dari pagi sampai sore. Il est ouvert du matin au soir. Cette conversation a eu lieu entre Dev Singh, un touriste indien, et Mona, l'amie de Dev, qui travaille comme maître de conférence à l'université Samratulangi. Il prévoit de manger dans un célèbre restaurant de Manado. Mona a transmis les heures d'ouverture du restaurant. Bonne écoute.
Restaurant ini buka 24 jam ya?
Tidak, restoran ini buka dari pukul 10 pagi sampai 5 sore.
Chers amis, après avoir fait écouter la conversation, je vais vous donner un exemple des expressions et des phrases liées au sujet d'aujourd'hui. Buka dari pagi sampai sore. Buka dari pagi sampai sore. Il est ouvert du matin au soir. Je vais prononcer doucement et lentement chaque mot, chaque phrase deux fois et puis vous pouvez me répéter. Restaurant ini. Restaurant ini. Ce restaurant. Buka. Buka est ouvert. Dari, dari, de. Pukul, pukul, heure. Sepuluh pagi, 10 heures du matin. Sampai, sampai, à. Lima sore, 5 heures de l'après-midi. Restoran ini buka dari pukul 10 pagi sampai 5 sore. Restoran ini buka dari pukul 10 pagi sampai 5 sore. Ce restaurant est ouvert de 10h à 17h. Chers amis, dans la conversation, vous avez entendu la phrase « Restaurant ini buka dari pukul 10 pagi sampai 5 sore. » Restaurant ini buka dari pukul 10 pagi sampai 5 sore. Ce restaurant est ouvert de 10h à 17h. Dans le discours, il y a une expression « dari pukul 10 pagi sampai 5 sore ». Dari pukul 10 pagi sampai 5 sore. De 10h à 17h. L'expression « dari, sampai, de, à » peut être utilisé pour marquer un laps de temps ou la durée de temps. Dans ce discours, l'expression dari, sampai, de, à est utilisée pour marquer l'heure d'ouverture du restaurant, soit de 10h à 17h. Chers amis, un autre exemple. Au lieu d'utiliser l'expression dari sampai de à, vous pouvez utiliser l'expression mulai hingga de à pour marquer la durée. Alors maintenant, écoutons un exemple d'utilisation d'une expression pour exprimer la durée. Mulai hingga de à. Restoran ini buka mulai pukul 10 pagi hingga 10 malam. Restoran ini buka mulai pukul 10 pagi hingga 10 malam. Ce restaurant est ouvert de 10h à 22h. Loket penerbangan dari Jakarta ke Manado dibuka pukul 7 hingga 10 pagi. Loket penerbangan dari Jakarta ke Manado dibuka pukul 7 hingga 10 pagi. Comptoir des vols de Jakarta à Manado ouvert de 7h à 10h. Chers amis, en plus de marquer la durée, l'expression dari sampai en français de à peut être utilisée pour marquer l'expression de lieu. Par exemple, ada banyak penjual makanan di sepanjang jalan dari Manado sampai Likupang. Ada banyak penjual makanan di sepanjang jalan dari Manado sampai Likupang. En français, il y a de nombreux vendeurs de nourriture de longue de la route de Manado à Likupang. Chers amis, avant de terminer, apprendre l'indonésien pour comprendre mieux, écoutons encore une fois la conversation. Bonne écoute.
Restoran ini buka 24 jam ya?
Tidak, restoran ini buka dari pukul 10 pagi sampai 5 sore.
Bon, chers auditeurs, voilà l'édition d'apprendre l'indonésien pour cette fois. J'espère que cette édition pourra être utile pour vous. Merci de votre attention et d'être fidèle avec nous. Au revoir.
Kau buat sirna, sudahlah harapanku hidup bersamamu. Ada satu hal yang tak bisa dihindarkan, walau hati tak rela untuk menangis semua. Takkan ada yang kekal. Kau buat sirna, sudahlah harapanku hidup bersamamu. Dulu dirimu
Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français.
Sempurna, buat ku tinggalkanmu. Karena ku tak putus sempurna, yang ku butuh kamu. Takkan ku lelah, yakinkan hatimu.
C'était la quatrième chanson pop indonésienne. Vous aimez bien la chanson? Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 33.5 kHz et sur le site web www.voinews.id. Chers auditeurs, nous continuons notre programme avec le magazine musical. Bon, écoute.
Bonsoir les auditeurs de Voice of Indonesia, voici le magazine Musica. Dans cette édition, je vous donne une chanson malaise intitulée Senandung Malam, chantée par Aziza. La chanson intitulée Senandung Malam a été composée par Nardiansyah. Les paroles parlent du bourdonnement d'une fille qui attend son amant, qui ne vient jamais. Elle était dans la lune tous les jours. C'est une chanson malaise de la région de Ujung Jabung, Jambi. Bon, chers auditeurs, voici Senandung Malam de Aziza. Bonne écoute.
Senandung Malam
Chers amis, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz. Et n'oubliez pas de nous écrire votre suggestion et critique à notre adresse de courriel voi@voinews.id. Vous pouvez suivre notre compte de Twitter, @boyindonesia, et d'Instagram, @voice.of.indonesia. Joignez notre Facebook The Voice of Indonesia. Regardez-nous sur notre YouTube Voice Indonesia. Et pour l'information plus détaillée, vous pouvez visiter notre site web www.voinews.id. On se rencontre demain, même heure et même fréquence. À bientôt.